Vous comprenez, moi dans le fond, ça m'arrange de te les boucher. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. J'ai jamais fait de mal à une mouche. J'aime bien les Belges, j'ai une passion pour les animaux. Tandis que les bouchers, eux, ben, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers, vous comprenez? Et puis, je leur prends leur argent aux bouchers. Puisqu'ils tuent les animaux, et que moi je les aime, les animaux. J'ai pas droit mort, vous comprenez? Un peu d'argent, un boucher de temps en temps, un peu de soleil, et un peu d'amour.
www.libradio.org
Voilà, voilà. Donc nous sommes toujours en direct depuis le Silure, un espace autogéré qui se situe au bord du Rhône à Genève, précisément au 3 chemin des Saules. C'est à l'arrêt du tram 14, l'arrêt Palladium. C'est juste à côté du Nid, qui est une épicerie participative qui vient d'ouvrir également. Et puis, comme point de repère un petit peu plus, disons, connu, ou en tout cas visible, eh bien, il y a le Café Ethno. Alors, nous sommes normalement en compagnie d'une personne avec qui nous allons parler de la Syrie et plus précisément de la Ruta l'Orientale. Est-ce que tu es là? Allô?
Oui.
Ah oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comme je ne connais pas votre nom, est-ce que vous voudriez vous présenter pour commencer?
Voilà, donc moi je m'appelle Louage Destinarman. Mm-hmm. Je suis une Suissesse d'origine syrienne et dès le début de la révolution, j'ai été activiste et on a créé ce collectif qui est devenu association qui s'appelle Femmes pour la démocratie.
Voilà, femme au pluriel pour la démocratie. Alors, effectivement, on va peut-être rappeler que nous nous sommes en fait rencontrés d'une certaine manière sans pouvoir se parler à l'occasion du rassemblement du 23 février sur la place des Nations Unies à Genève. Ce rassemblement qui avait cours à ce moment-là, n'était d'ailleurs pas le premier de ce type-là, mais avait pour but de dénoncer l'apathie de la communauté internationale quant à la situation de cette région Al-Ruta l'Orientale, qui se trouve aux portes de Damas et qui est une situation terrible puisqu'une population civile est enclavée dans un endroit et sous les bombardements, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait.
Alors, dites-nous, quelle est la situation? Ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser immédiatement, parce qu'effectivement, ce qui a été dit, les témoignages étaient poignants, étaient extrêmement durs, que l'on a entendu sur la place des Nations. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que quelque chose va vers le mieux, ou est-ce qu'on en est toujours dans cette situation dramatique de bombardement?
La situation continue à être dramatique, mais peut-être ça vaut la peine de mentionner que le lendemain de notre rassemblement où on s'est vu, il y a eu cette réunion la réunion du Conseil de sécurité a abouti, il y a une résolution qui est passée pour un cessez-le-feu de 30 jours.
Mmh, ouais.
Pour faire passer de l'aide humanitaire, sortir les blessés, etc. Et en fait, on s'attendait à au moins un début de calme, mais en fait cette décision s'est passée comme une lettre morte, c'est-à-dire il n'y a rien eu, il n'y a aucune aide humanitaire qui est entrée, les gens ils sont toujours enterrés dans les sous-sols. À la place de ce cessez-le-feu de 30 jours, la Russie a décidé qu'elle ferait juste un cessez-le-feu 5 heures par jour. Et pendant ces 5 heures, il ne se passe rien, en fait, mais il y a toujours des violations du cessez-le-feu.
D'accord, donc on peut dire...
Vous suivez ce que je veux dire.
Oui.
Donc, pour résumer, les gens de Al-Ruta, c'est leur 13e jour où ils sont dans les sous-sols, qu'ils ne peuvent pas monter chez eux si ça ne leur est pas déjà tombé dessus. Donc, ça, c'est le 13e jour, ils n'ont pas de quoi manger. Ceux qui sont sortis un peu pendant quelques temps de calme pour constater qu'il n'y a plus de magasins, les magasins ont été ciblés, donc il n'y a plus d'accès, même s'ils prennent le risque de sortir, il n'y a plus d'accès, il n'y a pas moyen de se ravitailler. Donc c'est leur 13e jour, l'eau potable, il n'y en a pas parce qu'il n'y en avait pas déjà avant, ils achetaient l'eau. Donc, bien sûr, pas d'électricité. Le lien même, nous, notre lien avec les activistes à l'intérieur, ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils arrivent de plus en plus à, disons, charger leur natel ou à trouver une couverture réseau pour qu'ils puissent communiquer avec nous. Donc, on est toujours en contact, mais la situation, elle va vraiment de mal en pire. Pendant juste les 10 derniers jours du mois de février, il y a eu 604 morts parmi les civils. Et oui. Il y a eu 12 morts parmi les militaires, donc les groupes armés. Oui, vous voyez qui c'est qui est visé?
Voilà, exactement, c'est ça. C'est vraiment, c'est une politique de terreur qui s'exerce, en fait.
Absolument, absolument. Et le but, en fait, avec... ce remplacement de 30 jours de cessez-le-feu par 5 heures par jour, et ça ne tient pas en plus, c'est toujours de pousser la population jusqu'au bout pour qu'ils acceptent de quitter la région. Oui. C'est-à-dire de sortir de Al-Ghouta. Est-ce qu'ils, disons, le plan, c'est un plan vraiment machiavélique, c'est un plan politique qui vise à sortir ces gens qui sont chez eux et qui ont osé un jour dire non au dictateur, les sortir pour les ramener vers le nord de la Syrie où il y a une région qui est encore, disons, entre les mains, qui n'est pas entre les mains du régime. Et ensuite, ça sera le tour de cette région-là, de Idlib, qui va vivre la même chose, mais quand on en arrive là, il n'y aura que la mort devant les gens de Idlib. Donc, le but, c'est d'effectuer un changement démographique, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont dit un jour non, il ne veut plus les voir, Assad, donc il veut changer sa population et il importe les populations qui sont proches des groupes, des milices qu'il aide, donc les milices de Hezbollah, les milices irakiens, chiites, les milices de l'Iran. Oui. Vous voyez, pour que toute la population lui soit acquise.
Clairement, tout à fait. Comment est-ce que vous expliquez cette alliance maudite Poutine-Assad? Quels sont les intérêts russes dans la région, selon vous?
Alors, tout d'abord, je pense que la Russie, elle veut être un grand pays. Donc, elle montre au monde tout entier que c'est elle qui gère la Syrie. Il n'y a personne qui lui dit non. En tout cas, elle le menace comme quoi il y aura une troisième guerre mondiale si jamais il y a quelqu'un qui ose bouger. De l'autre côté, elle a maintenant une base militaire navale, deux bases navales sur la côte syrienne. Et il y en a une, en tout cas une grande Ahmeymim, qui est une base aérienne. Et il y a même des milices russes sur le terrain.
D'accord.
Ça, c'est... sur le, disons, sur le côté, si on veut, pouvoir et grandeur de la Russie. De l'autre côté, à ce que j'ai entendu récemment, en fait, la Russie, suite à cette action, si on veut, contre Daesh, où Daesh n'est plus... sur les territoires syriens. En fait, Daesh, elle avait pris tous les puits de pétrole en Syrie. Et maintenant, ils sont remplacés par les Russes.
D'accord, ouais, donc on voit bien que tous ces intérêts économiques, et etc., etc. Dites-moi, j'ai lu le communiqué de Médecins Sans Frontières qui, justement, eux aussi, dénoncent avec virulence la situation, avec des chiffres terribles à la clé en termes de morts d'enfants, d'aînés, de civils. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Alors, on voit qu'il y a MSF, a priori, qui est mobilisé, mais qui peut venir en aide à ces populations enclavées et enterrées? De quelle manière est-ce qu'on peut arriver à ce que la situation se débloque pour le moins pour ces personnes-là? Il faudrait un couloir humanitaire réel pour de vrai, mais j'ai l'impression que pour le moment, ce n'est pas le cas.
Il faut que ce soit réel pour de vrai, c'est vrai, mais pour en arriver là, je veux dire, si maintenant on dit qu'il y a 5 heures de
pause,
calme
ouais.
Pour les couloirs humanitaires, mais on voit qu'ils ne donnent aucune autorisation. Donc, toutes les organisations internationales qui sont sur place, qui sont à Damas, à quelques kilomètres de Al-Ghouta, ne peuvent rien faire parce que Assad et la Russie ne donnent aucune autorisation. Ouais. Pendant cette même résolution, c'est juste pour faire un peu la comparaison, au nord, la Turquie qui bombarde Afrin, elle a laissé passer de l'aide humanitaire à la population.
Ouais.
Donc, dans cette, je veux dire, en Syrie actuellement, qui est sous le contrôle du régime Assad, il n'y aura pas d'aide humanitaire qui passe parce qu'il y a toujours ce but politique de vider. Donc, ils veulent pousser la population à bout. Comment on peut aider? Bah, certainement qu'on peut aider, c'est-à-dire que les États qui sont puissants, il faut qu'ils fassent pression à la Russie, à l'Iran, par le boycott.
Ouais, bah,
j'entends bien que c'est leur, je veux dire, ça n'est pas en faveur de leur propre intérêt économique à court terme. Mais je veux dire, on vit sur la même planète. Quel message on veut passer au monde tout entier? Qu'on défend nos propres intérêts économiques et on laisse les gens souffrir de l'injustice, sans oublier que ces injustices auront une conséquence tôt ou tard. Et on a vu déjà qu'il y a quand même beaucoup de réfugiés qui sont arrivés ici en Europe. Sans parler que dans le passé, il y en a eu encore beaucoup plus. Ce que je veux dire, pour forcer un chemin, même que humanitaire, il faut mettre la pression, pas par la parole, mais par les actes.
Mmh.
Et il faut être, je veux dire, les pays occidentaux, ils ont un respect normalement des droits humains, bah, il faut qu'ils acceptent que les Syriens aussi ont besoin d'avoir ces droits-là. Et donc, d'accepter de passer les droits humains des Syriens, de la population syrienne, devant leurs propres intérêts à court terme.
Oui. Alors, vous pensez que l'ONU, peut-être le Conseil de sécurité, ou alors la communauté internationale, quels sont les leviers sur lesquels il faudrait appuyer un petit peu tous, j'imagine, mais de votre point de vue, stratégiquement, vers qui il faudrait aller en priorité pour essayer justement de mener cette pression, de lancer peut-être ces appels au boycott?
Je pense que c'est les pays puissants qui peuvent mettre la pression sur la Russie et l'Iran. Dans le cadre du Conseil de sécurité tel qu'il est aujourd'hui, bah, il est bloqué parce que ouais. Ça, je veux dire, sa manière de fonctionner, c'est quand même la loi du plus fort,
bien sûr,
qui règne. Parce que,
il y a le veto, de toute façon. Ouais.
Tous les pays puissants, ils ont leur veto.
Voilà, exactement. Ouais, donc c'est bloqué.
Le Conseil de sécurité actuellement, il n'a rien à voir avec je veux dire, avec une sorte de démocratie internationale. Non, il fonctionne pour le plus fort. Donc, tel qu'il est aujourd'hui, il ne peut rien faire, sauf si les autres pays puissants qui ont des contacts et des relations avec la Russie, ils peuvent mettre la pression sur la Russie, mais une pression effective, boycotter la Russie pour qu'elle se plie et qu'elle accepte de lâcher Assad.
D'accord. Et oui, pardon.
Peut-être de lâcher Assad, au moins de laisser passer l'aide humanitaire.
Absolument, au moins, c'est clair. Alors, on va peut-être dire, parce qu'on ne l'a pas encore dit, le site internet de votre association, donc c'est www.femmes au pluriel, donc femmes, F-E-2-M-E-S, DEMOC, D-E-M-O-C.wordpress.com. Sur ce site, on trouve extrêmement détaillé toutes les informations qu'il faut et évidemment les actions qui sont en cours et notamment donc vous-même, hein, donc la FSD et la communauté syrienne en Suisse qui adresse une lettre ouverte au conseiller fédéral Cassis. Voilà. Et là, l'idée, c'est de demander des actions effectives pour éviter le déplacement forcé des 400 000 habitants d'Al-Ghouta. Ça fait partie d'une liste de revendications immédiates.
Tout à fait.
Et alors, cette lettre ouverte, elle a été expédiée. Avez-vous déjà eu des retours ou pour le moment, qu'en est-il?
Cette lettre ouverte qu'on a envoyée pour Al-Ghouta, donc pour Al-Ghouta orientale, elle est partie le 27, donc cette semaine encore. En principe, on reçoit les réponses quand on écrit comme ça, on reçoit les réponses pas avant un mois.
Ah, d'accord.
Mais on avait déjà écrit avant... vers mi-janvier, une première lettre pour ce bureau humanitaire que la Suisse a ouvert à Damas.
Oui.
Et dans ce communiqué, la Suisse disait justement que l'un de leurs premiers buts, c'est d'atteindre les populations qui souffrent et qui sont dans des situations extrêmes, comme par exemple les civils à Al-Ghouta.
Mmh.
Vous voyez? Alors, on avait écrit pour dire déjà que pour nous, on connaît le régime, et je pense que le monde tout entier connaît le régime.
Je
et
pense.
Il ne va jamais leur donner l'autorisation d'atteindre une population que lui, il punit par la faim, en la faim. Donc ça, je veux dire, c'est très naïf de donner un tel but à ce bureau. Pour nous, ce bureau, c'est un premier pas pour que si jamais Assad est réhabilité, bah déjà la Suisse, elle est présente à Damas.
Oui.
Et c'est malheureux de le dire, parce que si on veut refaire, mettre la main dans la main d'un dictateur qui a tué sa population, sa propre population, bah c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir pour un pays qui se réclame comme défenseur des droits de l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'on avait écrit, et la réponse, c'était une réponse très diplomatique, comme quoi ils œuvrent dans l'indépendance, que la Confédération ou le bureau qui est sur place œuvre dans l'indépendance et qu'ils ne regardent pas, disons, l'appartenance des gens, etc., etc. Mais ça ne répond pas à nos questions.
Ouais, ce sont des mots, justement, à l'inverse des actes, pourrait-on dire.
Absolument.
Ouais. Alors dites-moi, comment est-ce que vous arrivez quand même à quand même trouver ces informations-là, à les recevoir et à les relayer? Et sur place, est-ce qu'il y a quand même quelques groupes de personnes, quelques associations qui peuvent apporter un petit peu d'aide quand même, typiquement pour, j'imagine, des soins ou des choses de première nécessité? Est-ce que quelque chose arrive quand même à s'instiller comme ça, ou c'est vraiment rien?
Alors, les soins médicaux sont de plus en plus difficiles parce que les services médicaux, ils sont ciblés par les bombardements. Donc, ça, c'est de plus en plus difficile. Il n'y aura pas de mieux, je veux dire, avec le temps, s'il n'y a pas quelque chose qui change vraiment. Pour la nourriture, apparemment, la société civile, elle commence à s'organiser un peu. Comme ils peuvent, c'est-à-dire ils n'ont pas tous les moyens, mais ils peuvent avoir, je ne sais pas, Al-Ghouta, c'est une région très agricole, en fait, c'est la région agricole de Damas.
C'est le grenier de Damas, c'est ça?
Oui, donc s'ils arrivent à avoir quelque chose, ils ont encore des animaux aussi, donc peut-être ils trouvent des œufs, peut-être ils trouvent, etc., des trucs de première, je veux dire, qui sont sur place.
Oui.
Alors, au début, les 6 premiers jours, les gens étaient enterrés chez eux. Ils n'osaient pas sortir. Les institutions et l'aide, disons, humanitaire sur place, si on veut dire, étaient complètement paralysées parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir. Maintenant, ils commencent petit à petit à s'organiser et à faire la tournée des sous-sols où les gens sont enterrés et essayer, tant bien que mal, d'apporter un peu d'aide. Il y a un médecin qui se déplace pour voir la situation médicale des enfants, même s'ils n'ont pas, je veux dire, de médicaments ni de quoi soigner. Mais ils essayent, au moins psychologiquement, ça aide. Et ils essayent d'acheminer un peu de quoi manger à ces gens qui sont enterrés dans les sous-sols. Sous-sols, j'aimerais bien préciser que ces sous-sols ne sont pas des abris comme on pourrait imaginer ici en Occident. C'est des abris en cas de guerre, non. C'est juste des sous-sols d'un bâtiment normal qui n'est pas ni renforcé ni rien. Donc s'il c'est bombardé, je veux dire, l'immeuble, c'est tout ça qui leur tombe dessus.
Voilà,
ils peuvent être enterrés tous ensemble.
Ouais, ouais. Dites-moi une dernière question et puis ensuite on va arriver doucement au terme de cet entretien. Mais comment se passe une journée pour une famille qui est disons là bloquée dans ses sous-sols? Est-ce que les enfants arrivent quand même à jouer un petit peu? Est-ce qu'on arrive à leur faire un peu d'école? Est-ce qu'on arrive quand même à leur montrer quelques morceaux de normalité dans un monde complètement ahurissant et hallucinant. On entendait notamment le témoignage de la petite fille que vous aviez produit lors du rassemblement, qui était terrible, qui ne comprennent pas pourquoi on s'acharne ces bombardements sur une population d'innocentes et d'innocents, de civils.
Ouais. Oui, les enfants, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a personne qui fait rien pour arrêter ces bombardements. Ils ne voient pas pourquoi eux, ils doivent être tués, pourquoi on les tue. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Maintenant, à ce que nous, on voit, disons, parmi les messages qui nous arrivent, ou des fois, ils arrivent à envoyer des photos ou des petits bouts de vidéos, les enfants, comme tous les enfants, dès qu'il y a un peu de calme, ils se remettent à jouer ou à essayer de jouer. Oui. Mais vous voyez, ils reproduisent la situation dans leur jeu, donc c'est ça leur vie. Wow. Les filles qui ont amené une poupée en bas, ils essayent de lui trouver de quoi manger parce que l'enfant lui-même, il a faim. Donc, ils jouent comme ils peuvent. Ouais. Les gens ont eux-mêmes, le jour et la nuit, ça n'a plus. Je veux dire, les gens, ils notent sur les murs. Ils mettent un trait chaque jour pour qu'ils puissent avoir une évaluation du nombre de jours où ils sont enterrés dans les sous-sols.
Ah ouais, donc parce qu'il y a vraiment une perte des repères.
Pas de jour et de nuit, parce que à part que l'intensification des bombardements et que peut-être les bombardements c'est un peu moins de 9h à 14h pendant cette fenêtre où ils ont décrété qu'il y aura
des cessez-le-feu partiel et
plus. Voilà, partiel, bien qu'il soit violé. Ouais. Donc, c'est par ça, peut-être, qu'ils arrivent encore à repérer le jour et la nuit.
Oui, c'est vraiment une situation terrible. Dites-moi alors, quel est le calendrier concernant les prochaines actions, peut-être de l'association, d'autres rassemblements à Genève seraient-ils prévus? Et puis, par rapport aux actions que mène la FSD, donc l'association Femmes pour la démocratie, ces actions qu'elle mène, y a-t-il un calendrier des événements qui vont arriver prochainement que l'on pourrait relayer ici à la radio?
En fait, on a fait une demande d'autorisation pour un rassemblement à Genève le 17 mars. C'est pas seulement pour Al-Ruta, mais si ça continue toujours, bien sûr, Al-Ruta, elle sera au centre de notre rassemblement. Mais en fait, on arrive le 17, en fait, c'est entre le 15 et le 18 mars. C'est l'anniversaire de notre révolution. C'est le 7e anniversaire de notre révolution. Et on a prévu ce rassemblement pour ça. Voilà, donc on sera, mais par contre, on ne sera pas à l'ONU, on sera, si on obtient l'autorisation, à la place Neuve.
D'accord. Donc ça, c'est bien noté et on relaye, bien entendu. Est-ce que l'association Femmes pour la démocratie a besoin de quelque chose? Peut-on lancer un appel si vous cherchez des personnes, des bénévoles pour vous aider justement à peut-être informer les gens, à venir à préparer ces manifestations, à toutes ces choses-là?
En fait, en premier lieu, si les gens ils peuvent participer, c'est très volontiers. En deuxième lieu, si les gens, ils sont intéressés et ça les touche ce qui arrive en Syrie, s'ils peuvent eux s'informer, ils peuvent informer les gens autour d'eux. Mmh. Notre association est une toute petite association. Donc, on est peu nombreux et on fait les actions selon les événements qui se passent actuellement. Donc, on avait plus d'activités avant, mais actuellement, donc on est un peu moins que les personnes qui sont actives. Donc, voilà, moi, j'invite les gens très volontiers à s'informer. S'ils veulent venir sur notre page Facebook, on a aussi une page Facebook qui s'appelle Femmes pour la démocratie. Ils peuvent être actifs sur la page, mais ils peuvent aussi nous contacter via la page. S'ils veulent eux-mêmes organiser un rassemblement ou un petit quelque chose ou une conférence, ben nous, on peut fournir les gens qui peuvent faire une interaction ou intervention lors d'une conférence ou lors d'un rassemblement. C'est très volontiers.
D'accord. Et de la même manière que vous pouvez trouver ces personnes-là, donc arabophones et francophones des deux côtés?
De toute façon, si les gens ils sont arabophones, on assure la traduction. Voilà, on a des Syriens de Suisse qui sont là depuis longtemps et qui parlent très bien les deux langues et qui sont volontaires pour traduire, en fait.
D'accord.
On fait ça depuis le début de la Révolution.
Oui, effectivement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Nous allons bien entendu relayer tout ce qui vient d'être dit et puis nous allons nous tenir bien entendu informés de la suite de la situation et certainement que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour compléter les informations que nous avons commencé à donner aujourd'hui et bien sûr de suivre la situation en espérant que le plus rapidement possible, eh bien, les choses aillent mieux. Vous êtes dans quel état d'esprit actuellement vous-même ? Est-ce que vous êtes dans un optimisme prudent, un pessimisme un petit peu résigné ou comment vous vous sentez ?
Non, je suis déterminée à continuer. Tous mes pas seront en direction de rendre justice à cette population et de faire en sorte d'aller dans la direction pour acheminer la Syrie vers un État démocratique de droit qui est basé sur la citoyenneté. Et que la justice soit faite, que la justice de tous les responsables de crimes qui ont été commis en Syrie et pour les Syriens, qu'ils soient jugés. Donc voilà, moi je suis déterminée à continuer mon engagement. Maintenant, pessimisme, je ne le suis pas. Si je suis optimiste, actuellement, je suis les choses et je m'engage. Donc, à court terme, on n'aura rien, ça c'est sûr. Mmh. Mais c'est une période qui est probablement une période de l'histoire. Ça peut être long. Et moi, j'arrive à cette conviction. Cette période peut être longue. Donc, il faut continuer à la traverser et essayer d'acheminer dans la bonne direction. Pour la Syrie et pour l'avenir de la Syrie et pour les Syriens. Mais aussi pour que cette humanité aille dans la direction normale, c'est-à-dire de ne pas laisser d'espace à des gens criminels pour qu'ils continuent à tuer et à avoir le pouvoir sur tout un pays juste parce qu'on ne veut pas faire plus.
D'accord.
Voilà.
Et je vous remercie beaucoup. On va rappeler le site internet de l'association, c'est www.fams, donc avec un S, famsdemoc.wordpress.com. Merci encore à vous et puis on se tient au courant pour la suite des opérations. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc on va faire une petite pause musicale pour reprendre notre souffle après ces nouvelles qui sont en même temps extrêmement belles puisqu'on sent qu'il y a vraiment la volonté de changer les choses et de jamais se résigner. Et bien entendu, terrible puisqu'on imagine à peine les conditions dans lesquelles vivent ces personnes qui sont, comme on l'a dit, enclavées à la route à l'orientale, donc une région qui se trouve aux portes de Damas en Syrie. Petite pause musicale et puis nous reviendrons pour la dernière partie de cette émission, donc toujours en direct et en public depuis le Silur à l'occasion de l'exposition de EMDT qui va débuter, dont le vernissage est prévu à 17h, juste au terme de cette émission. La dernière partie, eh bien, elle sera consacrée aux personnes qui nous accueillent. Le Silur, un espace autogéré au bord du Rhône, exactement à l'adresse suivante, 3 Chemin des Saules. Le Silur, c'est un espace dans lequel il fait bon être, il fait bon parler, il fait bon faire des choses, on peut y discuter, on peut y organiser des bouffes populaires, des permanences de tout, de plein d'associations d'ailleurs qui les tiennent ici, et également l'Infocus qui a maintenant sa collection au Silur. Petite pause musicale et on revient avec nos derniers invités de la journée. Je te le rappelle, si tu souhaites interroger nos invités, eh bien tu le fais à l'adresse suivante info@libradio.org ou alors via la page Facebook de l'émission. Pause musicale. Bordel de flûte.
Ton bas usine la merde, bousille-le. Ton patron te file la gerbe, bousille-le. C'est l'État qui t'enchaîne, bousille-le. Tous ces chiens et ces chiennes, ouais, bousille-les. Et quoi ? C'est parce qu'on est des gentils que les vidéos de petits chats nous ont abrutis. Parce qu'on a rien dans le sac, on va conjuguer de grands verbes. Parce qu'on veut bien faire des vagues, mais pas noyer tous ces mange-merdes. Trouver des terrains d'entente, les terrains c'est les leurs. Ils sont sourds, sans branle, s'essuie les mains sur tes valeurs. Pourquoi jouer les diplomates? On prendra toujours plus tant qu'on répondra au coup de latte. Entendant notre cul, parfois le pardon c'est pas bon. Est-ce un tort de forcer? Ok t'as plein de droits, mais tu sais le droit ça se plie. Parce que le patron c'est le patron dans le rapport de forcer. Lui il a besoin de toi, mais est-ce que t'as besoin de lui? Les syndicats collabos, bousillés. Leurs gardes
et sourd, bousille-les. Le cadre et les ordres, ouais, bousille-les. Et regarde les sombres et bousille-les. On arrondit les angles, prends des pincettes. Parce qu'on a rendu les armes en échange des assiettes. On s'émerveille de les voir chier dans la gamelle. Content de pouvoir bouffer les selles sans payer la cabelle. Ça roucoule, ils avancent, on recule. Le recul, ça rend cool, ouais, sans rancune. On fait la paix, mais ce n'est qu'un écran de fumée. Non, c'est pas le calumet qu'on devrait fumer. Y'a déjà rien dans nos sacs et on slime les dents. Pendant qu'on tient à la baraque, ils vivent dedans. Même si c'est un roi qu'on les saigne nos gouvernements. J'invite pas à la haine mais au renversement. La finance et sa thune, bousille-la. L'allégeance est absurde, bousille-la. La présidence c'est de la flûte, bousille-la. Ouais, sans méchanceté aucune, bousille-la. Des flammes, paraît que c'est purificateur. Et puis ça manque de barricades, mais ils sont où les agitateurs? Tu frappes pas la queue devant la cave s'il y a plus des braises. Mais avec les cendres on fera des grâces sur les murs qui restent. Quoi devant la télé, qui se débranchera pas seul. Il est grand temps de l'enfoncer dans leur grande gueule. C'est ça un geste citoyen, c'est pas voter pour des bourges. La justice fera rien, elle est pensée pour créer un bouge. Tu crains quoi la milice? Ta milice c'est toi. Y'a que toi qui t'amenuise et minimise tes choix. Et quoi, y'a des risques mais c'est la guerre qu'ils veulent. Et je crois pas que ce soit piste de se faire la guerre tout seul. La loi qu'ils érigent, bousille-la. Le Sénat, l'hémicycle, bousille-le. On reste là, permissif et tu te bousilleras. Bousille-le.